Lire un texte de la parole de Dieu qui s'y est tué dans le livre du Cantique des Cantiques. Nous allons lire au chapitre 4 et à partir du verset 12. Livre du Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 12. Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Tes jets forment un jardin où sont des grenadiers, avec les fruits les plus excellents, les troènes avec le nard et le safran, le roseau aromatique et le cinnamome, avec tous les arbres qui donnent l'encens, la myrrhe et l'aloès, avec tous les principaux aromates, une fontaine des jardins, une source d'eau vive, des ruisseaux du Liban. Lève-toi, Aquilon, viens au temps, soufflez sur mon jardin et que les parfums s'en exhalent. Que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange de ses fruits excellents. J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée. Je cueille ma myrrhe avec mes aromates. Je mange mon rayon de miel avec mon miel. Je bois mon vin avec mon lait. Mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon ami, ma colombe, ma parfaite. Amen. Seigneur, nous réclamons une fois encore ta grâce et l'assistance de ton esprit. Nous nous sommes rassemblés pour recevoir de toi le conseil dont nous avons besoin et pour agir dans nos vies selon ce que tu nous enseignes dans ta parole. C'est pourquoi nous réclamons cette action de ton esprit qui est pleinement suffisante, non seulement pour nous conduire dans toute la vérité, mais pour nous permettre de devenir semblables à toi. Seigneur, merci de ces moments qui nous rassemblent. Merci parce que nous pouvons porter le fardeau les uns des autres et nous pouvons compter sur ton secours, nous pouvons compter sur ta grâce. Tu es attentif à nos cris et je sais que tu y réponds. Parce que tu es un Dieu fidèle. Aussi à toi soit toute la gloire, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais vous parler, juste pendant quelques instants, de l'Église comme étant un jardin. C'est comme cela que le texte que nous avons lu ensemble ce soir nous présente en fait l'Église de Jésus-Christ. Personne n'ignore parmi nous que l'auteur de ce livre du Cantique des Cantiques est le roi Salomon. Et le roi Salomon a utilisé une forme allégorique pour présenter les relations spirituelles qui existent entre l'Église, qui est l'épouse de Jésus-Christ, et son bien-aimé, sauveur et rédempteur, son époux, qui est Jésus lui-même. Et ici, le premier verset que nous avons lu nous dit « Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée. » Vous savez, c'est quelque chose à considérer, qu'avant de devenir un jardin, cette terre-là devait être en friche, livrée à des ronces, à des épines. Il a fallu un certain labeur, un certain travail pour que ce terrain inculte puisse devenir un jardin fertile. Dans ce sens, nous pouvons dire que l'Église, avant d'être Église de Jésus-Christ, eh bien, était aussi, comme le dit l'auteur de l'Épître aux Éphésiens, c'est-à-dire l'apôtre Paul, au chapitre 2 de son épître et au verset 1er, Il s'exprime en ces termes et il dit « Vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. » Et nous voyons là la grande différence, le travail qui a été opéré, réalisé par le Seigneur Jésus et par la puissance du Saint-Esprit dans chacune de nos vies, afin que de rebelles que nous étions, eh bien nous puissions devenir des enfants dociles entre les mains du Seigneur et que nous portions du fruit. Nous sommes donc devenus ce jardin dans lequel le Seigneur continue à agir, continue à travailler. Et nous connaissons ce que le même apôtre a dit dans un autre passage, quand il affirme « Il y en a un qui plante, il y en a un autre qui arrose, mais celui qui fait croître, eh bien, c'est Dieu. » Et je crois que nous ne pouvons pas compter sur quelqu'un d'autre que sur le Seigneur pour que l'œuvre qui a été commencée en chacun d'entre nous puisse se poursuivre et devenir parfaite. Et en tant qu'Église du Seigneur Jésus, eh bien, nous devons prendre conscience de ce que le Seigneur attend de nous, attend de chacun d'entre nous. Et la première chose que nous remarquons, c'est cette déclaration « Tu es un jardin fermé ». Attention, mes frères et sœurs, de ne pas comprendre que c'est fermé dans le sens d'une prison de laquelle on ne peut pas s'échapper. Fermé dans le sens d'une secte qui serait sous le règne, je dirais la dictature d'un gourou et dont personne n'oserait partir, s'en aller. Non, fermé dans le sens qu'il y a une clôture de protection. Le jardin de Dieu que nous sommes, que nous représentons, est en effet comme séparé d'avec le monde par le moyen des commandements du Seigneur qui nous ont été donnés. Vous savez que quelque part dans la Bible, ces commandements sont comparés à une muraille. Et il est dit ceci, si quelqu'un renverse une muraille, il sera mordu par un serpent. Et notre intérêt, c'est de vivre toujours d'une manière, je dirais, docile, obéissante, soumis à la parole de Dieu qui est notre garantie, qui est notre protection. C'est ça la muraille qui est élevée en face de l'ennemi de notre âme, avec bien sûr l'esprit de prière qui doit nous animer les uns et les autres. Vous connaissez ce verset de l'Écriture qui dit que Dieu cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche, quelqu'un donc qui va se tenir dans la prière pour élever un mur de protection. Dieu veut en effet que son peuple, son Église, soit vraiment une Église séparée de tous les principes qui règnent dans ce monde et connaisse un bonheur véritable dans une pleine et totale obéissance à la parole du Seigneur, nous soumettant à celui qui est notre bien-aimé. La relation qui existe entre l'Église et Jésus-Christ est une relation d'amour. Il n'y a pas d'obligation. Nous ne servons pas le Seigneur par obligation. Nous ne servons pas le Seigneur par force. Nous servons le Seigneur avec joie parce que nous sommes conscients de l'amour dont il nous a aimés. Et en réponse à son immense amour, nous aussi nous pouvons dire que nous l'aimons. Et le moyen de prouver au Seigneur que nous l'aimons, cela y est écrit dans l'évangile de Jean, et c'est une parole de Jésus, « Si nous aimons le Seigneur, dit-il, si quelqu'un m'aime, il gardera mes commandements. » C'est ainsi que l'Église est protégée de tout ce qui vient de l'extérieur, protégée de tout ce qui vient de la part de l'ennemi de notre âme. Et je suis persuadé, même au travers des épreuves et des difficultés que nous pouvons connaître, et d'ailleurs nous allons y revenir dans un certain moment, que le Seigneur, eh bien, garde les siens de telle sorte que nous pouvons avoir confiance en cette parole qui affirme, et c'est le Seigneur qui parle, « Nul ne les ravira de ma main ». Ceux qui appartiennent au Seigneur ont une garantie, parce que le Seigneur veille sur eux, et c'est la raison pour laquelle c'est bien de savoir que nous sommes comme cela, ce jardin fermé, au milieu duquel se trouve, remarquez la deuxième expression, une source fermée, une fontaine scellée. Mes frères et sœurs, depuis le jour de la Pentecôte, il y a une source qui jaillit au sein de l'Église. C'est le jour de la Pentecôte qu'il a été déversé sur ceux qui étaient rassemblés dans la chambre haute, la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit reste et demeure, c'est au vivre qui doit jaillir de notre sein. Et d'ailleurs, vous connaissez aussi ce que Jésus a dit à cette personne qu'il avait rencontrée à Samarie, la fameuse Samaritaine qui est venue vers lui, et Jésus lui a demandé de l'eau à boire. Elle était toute surprise d'entendre que Jésus, d'origine juive, selon la chair, lui demande à boire à elle qui était samaritaine, puisqu'il n'y a pas de relation entre les juifs et les samaritains. Mais Jésus a dit à cette femme, « Si tu connaissais celui qui te demande à boire, eh bien c'est toi-même qui lui aurais demandé de l'eau. » Et Jésus a dit, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui comme une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et cette source d'eau, la puissance du Saint-Esprit, elle nous a été donnée pour que Christ soit glorifié dans notre vie, pour qu'il soit placé au centre, je dirais, de notre vie, placé sur le trône de notre cœur. Mais à partir de là, si nous connaissons la bénédiction d'être remplis, renouvelés du Saint-Esprit jour après jour par une recherche de la face du Seigneur qui a promis de nous accorder cette bénédiction d'une manière constante et permanente, car voyez-vous, je ne crois pas qu'il puisse y avoir une nouvelle Pentecôte. Je ne crois pas qu'il puisse y avoir une nouvelle expérience dans ce domaine. La Pentecôte, ça a été fait une fois pour toutes, mais par contre, nous devons être continuellement en train d'être remplis du Saint-Esprit. Et pour être continuellement remplis du Saint-Esprit, nous avons besoin de chercher la face du Seigneur d'une manière permanente et constante, pour devenir à notre tour un moyen de bénédiction pour tous ceux qui nous entourent. Nous pensons, et j'espère que vous priez pour cela, à toutes les âmes qui sont perdues autour de nous, à tous ceux qui ont besoin de recevoir le salut et le don de la vie éternelle comme nous avons pu le recevoir au travers de la prédication de l'Évangile. Et ce moyen d'évangélisation, je dirais par excellence, c'est l'Église. Regardez au verset 13, il est dit, « Téger forme un jardin où sont des grenadiers avec les fruits les plus excellents. » Et un peu plus loin, il est dit, « Tu es une fontaine des jardins, une source d'eau vive, des ruisseaux du Liban. » C'est de l'Église que doit couler vers tous ceux qui nous entourent et qui ne connaissent pas la grâce de Dieu, des ruisseaux de bénédiction. J'espère, mes frères et sœurs, que comme moi, et j'en ai profondément le désir, eh bien, nous voulons que le Seigneur fasse de chacun d'entre nous des canaux de bénédiction pour tous ceux qui nous entourent. Autour de nous, il y a des âmes qui ont soif et faim de justice. Autour de nous, il y a des malades qui ont besoin de guérison. Il peut y en avoir même ici au milieu de nous. Nous venons d'entendre le besoin exprimé par une de nos sœurs qui nous demande de prier. Eh bien, c'est ça qu'est le jardin de Dieu. Il est justement représenté par ces jets qui jaillissent et qui doivent être pour nous tous, eh bien, une source de bénédiction, d'encouragement, de consolation, de joie, afin que nous connaissions une vie de plénitude en Jésus-Christ. Et en fait, quand nous vivons en relation étroite avec le Seigneur et que nous nous écartons du mal en poursuivant la justice, nous savons ce qui est écrit dans le psaume 1er, que celui qui s'éloigne du mal, ne s'assied pas en compagnie des pécheurs et ne vit pas conformément à ce qui se passe dans ce monde, celui-là, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte du fruit en sa saison. Et finalement, au sein de l'Église, il doit y avoir des hommes et des femmes qui produisent le fruit du Saint-Esprit. Et par quel moyen pouvons-nous porter le fruit du Saint-Esprit? Naturellement, en chacun d'entre nous, cela ne se trouve pas. Ce que nous sommes capables de produire, ce sont les œuvres de la chair. Et je ne vais pas rappeler ici ce que l'apôtre Paul dit dans son épître aux Galates, quand il dit que les œuvres de la chair, c'est l'impudicité, ce sont les adultères, c'est la magie, etc., etc. Il y a longtemps que tout cela, nous l'avons rejeté de notre vie. Mais il est dit, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la patience, c'est la tempérance, c'est la bénignité. Ces choses-là doivent se manifester au sein de l'Église. Pourquoi? Parce que c'est en contact les uns avec les autres et quand nous pouvons communiquer quelque chose que nous avons reçu de la part de Dieu, que nous devenons pour notre prochain, pour notre semblable, un moyen de bénédiction. Naturellement, nous sommes comme des buissons d'épines. Et vous connaissez la déclaration biblique au sujet de l'homme naturel. Il est dit, le meilleur parmi nous est semblable à un buisson d'épines. Et un buisson d'épines, vous le reconnaîtrez, qui s'y frotte, s'y pique. Mais quand on est un chrétien authentique, enfant de Dieu, ce qui doit se manifester, qui doit jaillir de notre vie, qui doit pouvoir être constaté par ceux qui nous entourent, c'est cette paix qui vient d'en haut, au sein des épreuves, au sein des difficultés, c'est cette joie, malgré quelquefois les larmes qui peuvent couler de nos yeux, comme nous avons pu le constater pour notre sœur, et je suis persuadé que notre sœur souffre intérieurement à cause du mal dont elle est atteinte. Mais en même temps, moi je suis persuadé, rien ni personne ne peut lui enlever la joie du salut qui est son partage, parce que lorsqu'on est en Christ, il n'y a rien qui puisse nous arracher de sa main, et le salut de notre âme est une glorieuse réalité qui nous permet de nous réjouir tous les jours. Et je peux vous assurer, chaque jour, je suis renouvelé dans la joie du salut de mon âme. Et nous ne devons jamais permettre à l'ennemi de notre âme de nous faire douter de ce que nous avons en Christ. Nous ne méritons rien, mais tout nous a été donné gratuitement en Jésus-Christ. Sa grâce est la chose la plus excellente qui soit. Et voyez-vous, cette grâce, eh bien, elle se manifeste, et s'il y a des arbres avec le fruit de l'Esprit, il doit y avoir aussi cette bonne odeur, ce parfum. Avez-vous remarqué, il est dit, il y a là le troène, avec le nard. Le nard et le safran, le roseau aromatique, le cinnamome, c'est-à-dire que l'Église doit aussi être remplie de louanges. La Bible déclare que le Seigneur siège au sein des louanges de son peuple. Nous ne sommes pas seulement rassemblés pour invoquer son nom, prier uniquement et quelquefois avec un cœur particulièrement fermé, mais il est dit « faites connaître vos besoins à Dieu ». Comment ? Accompagné d'actions de grâce. Parce que nous sommes conscients que lorsque nous prions, Dieu entend. Et s'il entend, alors nous devons avoir la certitude au fond de notre cœur qu'il exauce. Et si nous savons qu'il exauce, alors qu'allons-nous faire ? Nous allons nous réjouir. Et nous pouvons dire merci au Seigneur. Pourquoi ? Parce que la foi, c'est quoi ? La foi, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On ne compte pas sur ce que l'on est, on ne compte pas sur soi, mais on compte sur le secours de Dieu, sur la grâce du Seigneur, et nous pouvons lui offrir, eh bien, cette reconnaissance de notre cœur. Il peut trouver au milieu de nous, eh bien, cette joie intense. Et d'ailleurs, je vais y venir dans un instant, mais je voudrais vous faire remarquer ce qui est dit au verset 15. Une fontaine des jardins, une source d'eau vive. Remarquez, la première partie, une fontaine, c'est au singulier. Des jardins, ça, c'est au pluriel. Voyez-vous, l'Église de Jésus-Christ est composée, pardon de vous le dire comme cela, de différentes dénominations. Savez-vous pourquoi ? Parce que je reste persuadé que dans chaque dénomination digne du nom de Jésus, bien sûr, il y a d'authentiques et véritables enfants de Dieu. Est-ce que vous croyez, mes frères et sœurs, qu'il n'y a que de véritables enfants de Dieu dans les ADD ? Est-ce que vous croyez qu'il n'y a de véritables enfants de Dieu que dans la Fédération des Églises Bibliques ? Est-ce que vous croyez qu'il y a de véritables enfants de Dieu que dans certaines autres dénominations, protestants, baptistes ? Mais c'est quoi cela ? Ça, ce sont les hommes qui ont établi ces choses-là. Mais par contre, l'Église de Jésus-Christ, la seule et unique, une fontaine, la seule, par qui est-elle composée ? Par des hommes et des femmes qui sont nés de nouveau et régénéré par le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle, quand nous faisons des différences à partir d'un système ou d'une dénomination, à mon avis, nous sommes à côté de la plaque. Ce qui est important, c'est que nous soyons conscients d'avoir été régénérés par le Saint-Esprit. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et quand nous sommes cette Église-là, régénérée par la puissance du Saint-Esprit, renouvelée dans son onction, eh bien, cette Église peut connaître des temps d'épreuves et des temps de difficultés. Et c'est justement là qu'intervient une parole étonnante de la part du bien-aimé. Avez-vous remarqué ? Il parle au verset 16 et il dit « Lève-toi, Aquilon, viens au temps, soufflez sur mon jardin et que les parfums s'en exhalent. » C'est curieux, le Seigneur est bon, le Seigneur est miséricordieux, le Seigneur est doux, le Seigneur est pour chacun d'entre nous une forteresse, un refuge. Cependant, le Seigneur, eh bien, il sait ce que l'Église a besoin. Et des fois, eh bien, lui-même permet que le vent froid, Aquilon, souffle sur l'Église, ou au contraire, un vent chaud du sud va souffler sur l'Église. Et nous pouvons penser qu'à partir de ce moment-là, alors, tout va être ébranlé, tout va être détruit, tout va être anéanti. Mais quelquefois, il y a certains vents, comme ceux qui sont cités dans la parole de Dieu, qui sont indispensables pour que puisse jaillir du fond du cœur des authentiques et véritables chrétiens la véritable louange et la véritable adoration. Car, voyez-vous, c'est quand nous connaissons ces moments particulièrement difficiles que nous faisons aussi l'expérience du secours de Dieu et que nous réalisons, comme nous avons eu l'occasion dans d'autres circonstances de dire, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et pour tout vous dire, en réfléchissant à l'expérience des hommes de Dieu qui sont mentionnés dans l'Écriture, je m'aperçois que peu n'ont pas connu de moments de souffrance. Peu, pour ne pas dire aucun, n'a pas connu des moments de tribulation. Si, par exemple, je vous cite le nom de Joseph, immédiatement va venir à votre pensée tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu le concernant, ces moments où il a été trahi, où il a été vendu, où il a été oublié dans la prison, où il a été calomnié par une femme qui l'a traité d'une manière incroyable, ce qui lui a valu, n'est-ce pas, ce passage dans la prison. Est-ce que Dieu l'a oublié? Tout cela a été une préparation pour le moment où il a été souverainement élevé et où il a pu être en bénédiction pour les autres qui étaient là. Voyez-vous, je voudrais ajouter Job. En voilà un autre qui a connu des souffrances, n'est-ce pas ? En voilà un autre qui est passé par des moments extrêmement difficiles. Mais le résultat de tout, vous l'avez entendu s'exprimer en ces termes, quand il dit « Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, béni soit le nom de l'Éternel ». Et la fin du livre nous prouve que tous les vents contraires, toutes les tempêtes que cet homme a traversées n'ont pas réussi à l'anéantir. Hein, il a connu des moments d'abattement terribles, mais une chose est certaine, c'est que tout s'est transformé en une bénédiction telle qu'il a reçu bien plus que ce qu'il avait au préalable. Parce que Dieu est toujours capable de venir au secours de ceux qui se confient en lui. Alors, dans ce jardin, voyez-vous, il y a quelque chose que je voudrais souligner. Quelquefois, certains travaillent simplement auprès des clôtures, auprès de la haie, auprès des fossés qui entourent le jardin, parce qu'ils sont toujours là, vigilants, de peur qu'il y ait quelque chose d'immonde qui ne vienne entrer dans l'église. C'est vrai, la Bible dit que nous ne devons pas aimer le monde, ni l'esprit du monde, mais quand on passe le temps constamment à veiller pour que l'ennemi ne pénètre pas de cette manière-là, il y a un risque. C'est que pendant ce temps, on oublie de s'occuper aussi des plantes qui sont dans le jardin et qui ont besoin d'être entretenues. Il y en a d'autres qui font à l'inverse. Eh bien, sont toujours en train de veiller sur les plantes, de veiller comme cela à la vie intérieure. Et pendant ce temps, ils négligent quelque chose, c'est de se tenir à la brèche. Et l'ennemi en profite pour s'infiltrer et faire des ravages. En réalité, dans ce jardin, nous devons veiller aussi bien à ce que le monde ne pénètre pas, nous devons veiller à la sanctification, nous devons veiller à marcher d'une manière digne du Seigneur, mais en même temps, nous devons nous exhorter mutuellement les uns les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres, afin que nous puissions produire du fruit et que, au sein de l'Église, il n'y a pas un esprit d'abattement, un esprit de tristesse, une sorte de peine constante, mais que nous puissions exprimer la joie qui est la nôtre d'appartenir à un Seigneur tel que le nôtre, qui est tout puissant et qui est capable de nous conduire constamment dans une pleine et totale victoire. D'ailleurs, je remarque à un moment donné, une fois qu'il a fait appel comme cela à ces vents aquilons, à ce vent autant, et qu'il a soufflé sur le jardin, alors la bien-aimée apporte une réponse. Et moi, je trouve que c'est merveilleux qu'elle puisse se dire que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange de ses fruits. Remarquez bien, s'il vous plaît, c'est S-E-S. C'est pas quelque chose qui est indiqué comme démonstratif, mais c'est possessif. C'est, ça appartient au Seigneur. Tout ce que nous avons nous vient de lui. Qu'avons-nous que nous n'ayons reçu? Et même ce que nous pouvons manifester au sein de l'Église, même le fruit que nous pouvons porter, et surtout celui-là, c'est le fruit de l'Esprit. Quoi que nous fassions ici-bas et dans le cadre de l'Assemblée, quelle que soit la chose à laquelle nous sommes appelés de la part du Seigneur, et j'ai bien aimé le cantique que notre frère nous a fait chanter tout à l'heure, « La voix du Seigneur m'appelle ». Il nous appelle à le servir, il nous appelle à le glorifier, il nous appelle à entrer dans l'œuvre. Mais écoutez bien, tout ce que nous pouvons faire, nous ne le pourrons qu'avec sa force, agissant en nous et au travers de nous. Tout ce que nous pouvons produire, nous ne pouvons le produire qu'à condition que lui le suscite en nous par le moyen de son esprit. Et d'ailleurs, je remarque que la réponse du bien-aimé à l'invitation de l'épouse, c'est « J'entre dans mon jardin ». Encore une fois, je vous ferai constater, l'Église n'appartient à personne, elle appartient à Jésus. Certains serviteurs de Dieu, certains pasteurs ont pensé parfois que l'Église sur laquelle ils apportaient la parole de Dieu était leur possession. L'Église n'appartient à personne. Le chef de l'Église, c'est le Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle il dit, j'entre dans mon jardin. Et il dit, ma sœur, ma fiancée, je cueille ma myrrhe avec mes aromates, je mange mon rayon de miel avec mon miel, je bois mon vin avec mon lait. Il faudrait beaucoup de temps pour parler de chacun de ces éléments. Je voudrais juste souligner l'un d'entre eux, ou plutôt deux d'entre eux, qui sont d'une part le vin et par ailleurs le lait. Le vin, dans la parole de Dieu, est toujours le symbole de la joie, le symbole de l'allégresse. Et c'est de cela que nous devons nous enivrer. Et d'ailleurs, à un moment donné, vous connaissez la recommandation de Paul dans son épître aux Éphésiens, où il est dit « Ne vous enivrez pas de vin ». Mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Et le fait d'être rempli du Saint-Esprit va produire quoi? Eh bien, ce que j'ai déjà cité, ce que nous avons déjà énuméré. Et c'est ça que le Seigneur vient chercher au sein de l'Église. Voilà, le Maître est là, auprès de nous, et il veut pouvoir cueillir ces choses au milieu de nous, au sein de l'Assemblée. Et puis, le lait. Le lait dont Pierre parle quand il dit que, comme des enfants nouveau-nés, nous devons désirer le lait spirituel de la parole de Dieu. Si il y a des personnes au milieu de nous qui ne vivent, disons que de ce qu'ils entendent aux réunions au travers du serviteur de Dieu, je voudrais dire à ces personnes-là qu'elles ont besoin de réclamer au Seigneur qu'ils ouvrent leurs yeux par le Saint-Esprit afin qu'ils puissent découvrir les merveilles de la loi. Parce que c'est une chose certaine que nous avons besoin de nous nourrir quotidiennement du lait de la parole de Dieu et nous réjouir d'une manière quotidienne aussi dans le Seigneur Jésus, quelles que soient les circonstances que nous pouvons traverser. Écoutez Paul. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, dit-il. Je le répète, réjouissez-vous. Est-ce que Paul se trouvait dans des circonstances heureuses? Non. Il était au fond d'un cachot, il était au fond d'une prison, et il écrivait aux autres, et écrivant aux autres, il disait, réjouissez-vous dans le Seigneur. Ce qui veut dire que nous pouvons être enfermés dans des circonstances qui sont tout à fait négatives, mais à l'intérieur de nous-mêmes, Eh bien, il y a une source d'eau qui jaillit, une louange qui peut monter vers le Seigneur. Et vous connaissez, mes frères et sœurs, cette déclaration qui se trouvait dans la bouche de David. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. En réalité, ce verset, c'est « Je m'écris, loué soit l'Éternel, parce que je suis délivré de mes ennemis. » Il ne faut pas croire que c'est une formule magique. Je vais dire « Loué soit le Seigneur et je vais être délivré. » Non, je prends conscience que Christ a tout accompli, il a tout fait. Je suis en lui libéré, alors je m'écris « Loué soit l'Éternel. » Et quand l'Église, eh bien, est capable de manifester un tel enthousiasme, une telle joie intérieure, le Seigneur, en son sein, peut se réjouir. Je voudrais terminer dans un instant pour vous dire, parfois, le Seigneur est là et on n'en est pas conscient. On n'en prend pas conscience. On ne veut pas en prendre conscience. Vous savez, je suis un petit peu toujours en but avec ceux qui sans cesse disent « Ah, aujourd'hui, j'ai senti la présence du Seigneur. » Vous avez remarqué? Vous avez jamais entendu cela? Aujourd'hui, j'ai senti la présence du Seigneur. Ou je sens qu'il est près de moi. Ce n'est pas une question de sensualité, ni de sens. Je dis sensualité parce que c'est dans l'épître de Jude où il est parlé d'êtres sensuels qui sont toujours à la recherche d'émotions, de sensations, de sentiments. En réalité, c'est que je sente ou que je ne sente pas, le Seigneur est là. Pourquoi? Parce qu'il a dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom seulement, je suis au milieu d'eux. Mais permettez-moi de vous dire, quelquefois nous pourrions connaître l'expérience que Jacob a connue. Vous vous souvenez quand, fuyant son frère, il a eu la vision d'une échelle. Et le lendemain, quand il s'est réveillé et qu'il a pensé à ce songe qu'il a eu, les anges qui montaient, qui descendaient sur cette échelle, il a fait une déclaration. Il a dit « Le Seigneur était là et moi, je ne le savais pas. » C'est triste. Notez qu'un autre personnage, lui, à l'inverse, croyait que le Seigneur était encore avec lui. Mais le Seigneur l'avait quitté. Vous savez qui c'est? C'est Samson. Pendant un temps, il a réalisé des exploits. Mais comme il avait perdu, en délivrant son secret à celle qui était à côté de lui, la force de Dieu, parce que la force qu'il avait, ce n'était pas la sienne, c'est celle que Dieu manifestait au travers de lui. Alors, à un moment très particulier que vous connaissez, il a voulu agir, manifester cette force. Il croyait que le Seigneur était encore avec lui, que sa force était encore en lui, mais cette force n'y était plus. Par contre, permettez-moi de vous parler juste quelques instants de cette femme qui s'est approchée là du sépulcre, Marie de Magdala. Elle est venue avec l'intention d'embaumer le corps du Seigneur. Mais elle a vu que la pierre était roulée, le Seigneur n'était plus là. Elle a entendu l'ange lui dire, ne cherchez pas parmi les morts celui qui est ressuscité, qui est vivant. Elle entend une voix derrière elle. Elle pense que c'est le jardinier. Et elle dit, mais Seigneur, dis-moi où tu l'as mis afin que j'aille le trouver. Et seulement un mot de Jésus a aidé cette personne à prendre conscience. Elle croyait qu'il n'était pas là, et il était tout près d'elle. Marie. Et en un instant, eh bien, sa tristesse, sa peine a disparu. Elle est allée pour dire aux autres qu'elle avait vu le Seigneur ressuscité. La même chose pour les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Vous vous souvenez, ils étaient tout tristes, ils s'entretenaient entre eux et ils parlaient des événements passés et ils disaient, nous pensions que ce serait lui qui relèverait Israël, que ce serait lui qui établirait son trône. Tout cela, ils étaient en train de le dire au Seigneur, mais leurs yeux étaient empêchés de le voir jusqu'au moment précis où ils sont arrivés à un endroit. Mais là, j'attire votre attention. Les deux disciples ont insisté et ils ont dit, reste avec nous. Lui faisait semblant d'aller plus loin, mais eux, ils ont insisté, reste avec nous, reste. Et Jésus alors a accepté de rester avec eux. Et au moment de rompre le pain, et vous pouvez comprendre cette image, au moment où il a rompu le pain, les disciples ont vu les marques des clous et ils ont reconnu le Seigneur est ressuscité. Et une grande joie est venue dans leur cœur. Ils sont repartis pour se joindre aussi aux autres et leur dire qu'ils avaient vu le Seigneur ressuscité. Eh bien, mes frères et sœurs, quelle leçon. Ici, la bien-aimée invite son bien-aimé et il dit, entre dans le jardin. Si nous n'avons rien à offrir, alors évidemment nous allons éviter cela. Nous allons éviter son regard. Nous allons éviter de confronter le Seigneur. Mais si précisément nous vivons dans cette relation avec lui, nous pouvons lui dire, entre, viens. C'est triste quand, comme dans l'église de la Odyssée, le Seigneur est obligé de se trouver à la porte. Et Jésus dit, je frappe. Si quelqu'un entend et ouvre, j'entrerai et je souperai avec cette personne. Eh bien, là, nous devons insister. Seigneur, demeure avec nous. Viens avec nous. Il faut vraiment que nous cherchions le Seigneur de tout notre cœur, non seulement au travers de ces moments particuliers qu'il nous accorde dans la communion fraternelle, mais chacun d'entre nous individuellement, parce qu'il va alors nous révéler pour que nous puissions discerner clairement ce qu'il attend de nous et que nous entrions dans une vie active, efficace, pour la gloire de son nom. Et ce qui s'est passé là, eh bien, va se réaliser. Alors là, il s'adresse à la bien-aimée en ces termes, « Ouvre-moi ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. » Écoutez bien mes frères et sœurs, nous ne le sommes pas naturellement, mais nous le sommes en Christ. En lui, nous sommes justifiés, en lui, nous sommes sanctifiés, en lui aussi, nous sommes glorifiés. C'est notre position cachée en Christ. Et nous devons faire valoir cela. Je me réjouis, non pas de ce que je suis naturellement, mais je me réjouis de ce que je suis caché en Christ. Et je dois pouvoir, eh bien, le mettre en évidence cela et glorifier Dieu de tout mon cœur. Je voudrais simplement vous dire, c'est magnifique d'être appelé sœur et frère du Seigneur. Quand, dans le jardin d'Éden, l'homme a péché et que Dieu est entré dans le jardin, il a appelé l'homme et la Bible dit que l'homme a eu peur et il s'est caché. Pourquoi ? Parce qu'il ne connaissait Dieu que comme le Créateur. Mais ici, le Seigneur appelle l'Église sa sœur. Est-ce que vous vous rappelez de ce qui est écrit dans l'Épître aux Hébreux ? Dans l'Épître aux Hébreux, il est dit au chapitre 2 que le Seigneur ayant souffert pour nous et élevé à la perfection au travers des choses qu'il a souffertes, eh bien maintenant, il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Nous sommes frères du Seigneur. C'est un privilège qui est extraordinaire. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'Église, il n'y a plus de place pour la peur de Dieu. La crainte de Dieu, oui. Le respect de Dieu, l'amour de Dieu, oui. Mais la peur de Dieu, non. Quand on est conscient d'être caché en Christ, et que l'on occupe cette merveilleuse position, alors la relation avec le Seigneur est quelque chose d'extraordinairement bon et merveilleux. Que le Seigneur nous aide à comprendre cela et à marcher selon ces principes-là. Passons du temps encore dans la prière et peut-être continuons à invoquer le nom du Seigneur en sachant qu'il peut tout transformer pour le bien de chacun. N'oublions pas notre sœur qui a fait appel